RFI, c'est le journal, il est 15h à Bakou, une heure de moins à Moscou.
Théo Renaudon.
La COP29, conférence climat qui s'ouvre en Azerbaïdjan. La cérémonie d'ouverture a eu lieu. Ça y est, objectif récolter des sous pour le climat. Pays riches et pays en voie de développement se renvoient la balle. Tout ça dans un contexte international tendu. En France, la réouverture de Notre-Dame approche 5 ans après l'incendie. Et il n'y a pas que les touristes qui ont hâte, on va le voir. Parole de riverain dans ce journal. Et puis enfin, l'ancien chef d'État François Hollande sort son podcast mensuel. Aurélien Devernois nous parlera de sa stratégie pour rendre la social-démocratie à la mode. Top départ de la COP29 en Azerbaïdjan ce jeudi. C'est parti pour 2 semaines de négociations climat. Près de 200 États représentés, une centaine de chefs d'État donc et 50 000 participants. Tout ça alors que les températures mondiales battent tous les records. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce matin. Jeanne Richard.
It gives me great pleasure.
C'est avec un grand plaisir que je déclare la 29e conférence de l'ONU sur le changement climatique ouverte.
Comme le veut la tradition, c'est le président de la COP de l'année précédente, celle de Dubaï, qui ouvre la conférence. Sultan Al-Jaber, qui débute en faisant référence à l'élection du climato-sceptique Donald Trump aux États-Unis et aux guerres en Ukraine et à Gaza.
Nous nous réunissons dans une période de complexité et de conflit. Et malgré tout, je peux vous dire que nous, aux Émirats, nous choisirons toujours la collaboration et le dialogue plutôt que la division, la paix plutôt que les provocations.
And peace over provocation.
Il passe ensuite le flambeau à Mukhtar Babayev, ministre de l'Environnement azerbaïdjanais, qui devient donc officiellement le président de la COP29.
Welcome to Azerbaïdjan.
Bienvenue en Azerbaïdjan, bienvenue à la COP29. La priorité de ma présidence est de déterminer un nouvel objectif de financement climat qui doit répondre aux besoins et aux priorités des pays en voie de développement.
Un objectif très ambitieux car selon la dernière estimation de l'ONU, les besoins se situent entre 5 000 et 6 900 milliards de dollars à trouver ces 5 prochaines années.
Jeanne Richard, il n'y a pas eu de coup de fil entre Vladimir Poutine et Donald Trump. C'est une pure invention, désavoue ce lundi le porte-parole du Kremlin. Le journal américain Washington Post avait pourtant rapporté un premier contact entre le président russe et le futur président américain jeudi soir. La Russie a quand même estimé ce dimanche que Trump avait envoyé des signaux positifs lors de sa campagne. Les Ukrainiens, eux, se sont réveillés ce lundi au son d'une alerte générale au bombardement, une série de frappes qui a tué au moins 6 personnes et blessé 21, dont 5 enfants. Un immeuble résidentiel a été détruit selon des responsables locaux. Les troupes russes, elles, tentent une avancée dans la région de Koursk, observation du commandant en chef de l'armée ukrainienne ce lundi. Koursk, souvenez-vous, c'est cette région russe prise par l'armée ukrainienne en août. 50 000 soldats sont mobilisés par le Kremlin pour reprendre la zone, selon des officiels américains. Mandat fragile, mais mandat quand même pour le premier ministre japonais Shigeru Ishiba, réélu ce lundi à l'issue d'un vote du Parlement. Pouvoir fragile après des élections législatives désastreuses pour son parti, le parti libéral-démocrate. Élu pour la première fois il y a un mois, le premier ministre nippon avait convoqué des élections anticipées, espérant asseoir un peu plus son pouvoir. Raté, les Japonais mécontents de l'inflation l'avaient sanctionné. La réouverture de Notre-Dame de Paris approche. Il reste 3 semaines avant la fin des travaux. Il a fallu 4 ans de chantier avant que les touristes, il aura fallu 4 ans de chantier avant que les touristes du monde entier puissent de nouveau entrer dans la cathédrale. Il y a les touristes, mais il y a aussi tout un quartier autour. Les riverains, les commerçants, les guides, eux aussi attendent cette réouverture. Aram Beng est allé les rencontrer.
C'est devenu un rituel. Depuis plusieurs mois, Chantal vient s'installer chaque après-midi sur les gradins installés sur le parvis pour contempler la façade de la cathédrale. Riveraine de Notre-Dame de Paris, elle a vu son quartier se transformer pendant les travaux.
Tous les commerces aux alentours ont fermé parce que là, il y a des palissades, mais derrière Notre-Dame, il y a encore des palissades et il y avait plein de restaurants là, des restaurants assez sympathiques. Et là, tous ces restaurants sont fermés parce que manger devant une palissade, c'est pas très agréable.
Si les commerces commerces du quartier ont perdu de la clientèle, l'affluence des touristes n'a pas baissé pour autant. Christine est membre d'une association composée de bénévoles qui font visiter l'intérieur de la cathédrale.
Nous sommes normalement guides à l'intérieur de la cathédrale et depuis 15 avril 2019, nous sommes guides sur le parvis. C'est-à-dire que maintenant, on travaille plus avec des groupes qui réservent à l'avance, alors qu'avant, on était dans la cathédrale et on faisait une annonce pour que les gens qui étaient dans la cathédrale puissent nous joindre s'ils voulaient avoir des explications sur le monument.
Riverain de Notre-Dame, Richard estime que le drame de l'incendie a permis au public de redécouvrir autrement le monument.
Le quartier a été très visité par des touristes qui sont venus voir, notamment les expositions de photos qui racontent un peu l'histoire de Notre-Dame depuis l'incendie. Et puis, il y a eu sur le parvis des célébrations, des temps de prière pour que les gens puissent se réunir, même pendant les Jeux Olympiques. Alors, ça veut dire qu'il y a de la vie. Et je pense que les gens se sont petit à petit habitués à une autre façon de fréquenter Notre-Dame. De loin, mais d'une façon fidèle.
Sur le parvis, une exposition de photos montre les corps des métiers participant aux travaux, ce qui est une très bonne initiative pour ce visiteur français et cette touriste suédoise.
C'est très intéressant, vraiment. Et c'est très bien expliqué, pas trop compliqué. Et il y a assez d'informations. Je sais qu'il y a beaucoup de différents métiers qu'il faut pour le faire reconstruire.
C'est magique, tout simplement. Cette capacité de faire travailler ensemble des métiers, je ne sais pas combien il y en a, une centaine, et de faire travailler comme ça aussi bien, c'est extraordinaire.
Avant l'incendie, Notre-Dame de Paris accueillait 12 millions de visiteurs par an. Elle devrait en accueillir désormais 15 millions à partir de sa réouverture au public le 8 décembre 2024.
RFI.
Bonjour, c'est François Hollande qui vous parle.
Vous avez peut-être donc reconnu la voix de l'ancien président français François Hollande, place à l'Assemblée nationale comme simple député, nouveau livre sur la gauche et le pouvoir, et maintenant podcast mensuel. François Hollande est partout cet automne, bien décidé à peser de tout son poids sur la stratégie de son parti, et plus largement de la gauche dans les prochaines années. Bonjour Aurélien de Vernois.
Bonjour à tous.
Vous suivez le nouveau Front Populaire pour le service politique de RFI. L'ex-chef de l'État a une obsession: réhabilitation. La social-démocratie.
Et réhabiliter son bilan par la même occasion, car s'il y a bien une chose que François Hollande ne supporte pas, c'est que son action présidentielle soit remise en cause, en particulier au sein du Parti Socialiste. Un crime de lèse-majesté, alors que, dit-il dans son ouvrage Le défi de gouverner, il a accompli lors de son mandat 75% de ses engagements de campagne. Dans son viseur, l'actuel patron du PS, Olivier Faure, qu'il compte bien faire remplacer lors du prochain congrès des socialistes en 2025, la première étape d'une stratégie visant la présidentielle 2027.
Et quelle est cette stratégie, Aurélien ?
Alors, on peut l'appeler la stratégie du coucou, revoilà la social-démocratie. Mettre donc un premier secrétaire du PS moins assujetti au rival LFI, puis élargir le PS au camp social-démocrate avec notamment Raphaël Glucksmann, Bernard Cazeneuve et des repentis du macronisme, et enfin présenter un ou une candidate à la présidentielle sous cette bannière social-démocrate. François Hollande le martèle, il ne faut pas de candidat unique de la gauche, cela empêcherait un élargissement électoral au second tour.
Et ce candidat social-démocrate, ça pourrait être lui ?
Alors, il souffle le chaud et le froid à ce sujet. D'un côté, il se dit pas indifférent à 2027, de l'autre, il ne veut pas donner l'impression que sans lui, il n'y aurait pas de salut. Mais si l'on veut regarder les symboles, François Hollande consacre le premier épisode de son podcast à la victoire de Donald Trump aux États-Unis, premier président américain de l'ère moderne à réussir un comeback après avoir perdu le pouvoir. Il y a quelques semaines, un sondage ne lui avait toutefois prêté à François Hollande qu'à peine 5% d'intention de vote en cas de candidature à la présidentielle, ce qui rend le titre de son podcast un peu ironique.
Un président devrait écouter ça.
Aurélien de Vernois du service politique de RFI. Et puis aujourd'hui, c'est le 11 novembre, jour chômé en France, 106e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Le président français reçoit le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer. Commémoration sous le signe donc de l'amitié franco-britannique. En marge de ces cérémonies, Emmanuel Macron et Keir Starmer s'entretiennent ce lundi sur Gaza, Donald Trump et la guerre en Ukraine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est le grand reportage. On va au Tchad avec Carole Valade.